Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. C'est ce que pensent les gens, mais pour lui, il voit la chose autrement. Il se dit que leurs relations sont pures et vraies, parce qu'ils sont faites par les goûts de leurs sentiments. Frédéric pense que les gens se trompent, et qu'il faut malheureusement les détromper, leur prouver qu'ils se trompent. Une mauvaise réputation, c'est très grave pour un garçon. Le grand-père lui dit. Voilà ce que j'avais à te dire.
Merci, grand-père. Je ferai attention. Je ferai très attention. J'en parlerai à Gilles.
Et le lendemain, soir, lorsqu'il est chez Gilles dans son salon, il lui dit.
Gilles, je crois. Ce qui serait bon, c'est que l'on se voie moins souvent.
Gilles est surpris et lui demande « Pourquoi ?»
Frédéric lui dit « Parce qu'en étant toujours ensemble, ça fait changer. Ça fait changer les gens et ils pensent des choses sur nous. Ça peut être nuisible pour plus tard. » Gilles lui dit « Qu'est-ce que pensent ces nuls ?»
Frédéric lui répond pas. Gilles lui dit « Ils ne savent rien sur nous. Sur nous-mêmes. Ils ne savent pas ce que nous faisons. Ils n'ont pas à nous juger, ces nuls. Eux, ils ne sont pas capables de faire tout ce que nous avons fait. »
Frédéric lui dit, « Je sais bien, mais on ne peut pas les effacer comme ça, et leurs paroles peuvent nous nuire, surtout pour plus tard. »
Gilles hausse ses épaules et lui dit, « Il n'y aura pas de plus tard. Les gens comme nous meurent jeunes. Le monde nous tue. Ne comprennent pas ce que nous sommes, soudés l'un à l'autre. »
Frédéric lui dit, « Je sais, mais ne souhaite pas que nous nous voyons plus, mais moins, et disons en cachette. »
Furieux lui dit, « Jamais en cachette. Si tu veux, nous nous verrons moins, mais tu le regretteras. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps libre ?»
Frédéric lui dit, « Je penserai à toi et personne ne nous séparera, je te le jure. » J'ai lui dit, « Moi non aussi. »
Frédéric lui dit, « Ils veulent, c'est que je voie d'autres personnes et des filles. »
J'ai lui dit, « Des filles? Tu en vois, mais elles ne peuvent plus témoigner après. »
Et Frédéric voit moins Gilles qu'une fois par semaine. Il se donne rendez-vous chez lui, même s'ils doivent sortir. C'est mieux que de partir du lycée. Frédéric ne cherche pas de nouvelles amitiés. Éric est heureux que son frère voie moins ce Gilles. Mais il sent que Frédéric est toujours réticent vis-à-vis de lui. Et en plus, il est obligé de voir Carole pour la remercier une fois par semaine. Il aimerait mieux c'est voir Florence. Carole reste sur ses gardes. Elle voit qu'il voit toujours cette Florence. Elle est jalouse de cette fille. Les jours passent. Jeanne Bosch, la sœur d'Auguste, vit en ce moment à Paris, dans un petit appartement près de la place Louis XV, dans un immeuble du 18e de 4 étages. Cossu, très cossu. Elle s'est fait acheter par son frère cet appartement de 4 pièces au dernier étage. Elle l'a meublé avec des meubles et des tentures qui viennent du château. Vieux meuble Louis XV en gros bois. L'appartement, quoique clair, fait sombre à cause des tentures sombres, des tapisseries et tous ces bibelots qui sont sur les meubles. Il y a aussi des plantes vertes un peu partout. On se croirait en province, chez une vieille fille qui vivrait dans des meubles de ses parents. Elle vit avec une bonne qui fait la cuisine. Une vieille fille sèche, à cheveux à chignon gris. Jeanne à Paris va au théâtre. C'est une passionnée. Puis, elle va voir ses vieilles amies, comme elle. Jeanne reçoit les après-midi à 15h ses amies. Elle les reçoit et l'on discute de sujets. Leur sujet de conversation, c'est leur douleur, leur peine, bien entendu, et dire du mal des autres, surtout des personnes qui ont le mieux réussi qu'elles. Si elles ont réussi, c'est qu'il y a du louche. La femme est une traînée où l'homme couche avec une personne ou une personne a une maladie grave.
Hey, toutes ces personnes ont la carte bien remplie. On parle de ces choses-là en prenant le thé, en mangeant des petits gâteaux. Pas des madeleines, mais des petits gâteaux. Un après-midi, dans son salon, il est bientôt 15h et personne n'est venu. Le thé est prêt à être servi. Elle se dit, il est vrai qu'il pleut aujourd'hui et que cette dame ne veut pas se mouiller. On sonne à la porte. Elle fait, oh ! Dépend. C'est la bonne qui va ouvrir. La porte qui s'est ouverte. Je seulement de voir. Dépend. Frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne. Madame, c'est mademoiselle Renaud qui vient en visite. Elle lui dit, mais faites-la entrer, ma fille. La fille se retire. Jean se dit, tiens, cela fait longtemps que je ne l'avais pas vue. On frappe à la porte. Entrez. La bonne fait entrer une femme grande, forte, cheveux châtains, visage triste, habillée d'une robe rouge. Jean va à elle. Bonjour, mon ami. Quelle joie de vous revoir. Elle s'embrasse. Mademoiselle Renaud lui demande, j'espère que je ne vous dérange pas. Mais non, pas du tout. Je prépare mon thé. La pluie ne vous a pas trop ennuyé? Non, j'ai pris un taxi. Jean lui dit, veuillez vous asseoir. Elle l'amène s'asseoir dans un fauteuil qui a un apron sur le dossier en tissu. Le fauteuil se trouve à côté d'une table basse. Jeanne s'assoit en face d'elle. Elle dit, à 15h pile, je fais servir le thé. Toutes mes amies le savent. Alors, que faites-vous à Paris? Mademoiselle Renaud lui dit, je suis venue faire quelques courses et trouver du bon chocolat pour monseigneur qui est toujours aussi gourmand. À Lyon, il n'y a plus de bon chocolatier. Je me suis aussi acheté cette robe qui me plaît beaucoup, mais j'ai peur de déplaire à Lyon, le rouge, à mon âge. Jean lui dit, va très bien. On frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne, avec un chariot. C'est le thé et un gâteau, du cake au raisin et tout ce qu'il faut pour le thé. Elle va vers elle. Elle les sert. Un doigt de lait, s'il vous plaît. Bien, madame. Jean prend le thé sans rien. Une fois que la bonne est finie de servir, elle s'en retourne avec le chariot. Elles boivent en silence. Et mangent un bout de gâteau. Mademoiselle Ramon lui dit, il est excellent. Il dit, et fabriquer exprès pour moi. Mademoiselle Ramon lui dit « J'ai fait une expérience étrange. Je suis allée chez une voyante. » Jeanne lui fait « Une voyante ?»« Oui, mais pas n'importe laquelle. Celle-là a comme client les hommes d'État, des artistes, des intellectuels. Je n'aurais jamais été chez elle, mais une de mes amies m'a forcé à y aller. C'est une femme remarquable. Elle lit dans les lignes de la main et elle a à la main un bracelet qui lui sert pour ainsi dire de talisman. Une femme extraordinaire. Je m'étais à peine présentée qu'elle me débite tout mon passé et me dit que je mourrais d'une mort violente. Dit « Mais vous croyez à toutes ces histoires ?» Mademoiselle Ramon lui dit « Bien sûr que j'y crois. Maintenant, j'y crois comme fer. C'est une femme admirable. » Jeanne se dit « Mais ce n'est qu'une voyante. Oui, mais elle sait des choses que personne ne savait. » Jeanne fait la grimace et se dit que son amie a sombré dans le barbarisme. Mademoiselle Ramon lui dit « Puisque je vois que vous me croyez pas, que vous me prenez pour une vieille folle, je vais vous mener moi-même chez cette femme. » Jeanne lui dit « Quoi faire? Je ne crois pas à ces sornettes. » « Tu verras, tu changeras lorsque tu la verras. Tu as peur ?»«
Moi, peur? Mais non, pas du tout. » Bien au contraire, c'est elle qui aura peur de moi. Nous allons la voir. Quand cette fameuse voyante?
Ramon réfléchit, lui dit. Si tu es libre, demain après-midi, je lui téléphone pour savoir si elle peut nous recevoir.
Oui, je veux bien, à 16h.
Mademoiselle Ramon prend de son sac son téléphone portable et fait un numéro. Allô? Je suis bien chez Madame Zéphyr? C'est pour un rendez-vous. Demain après-midi, 16h. Est-ce possible? Je suis Mademoiselle Ramon. Vous savez, celle que vous avez appelée la Madone Rouge. Bien. Pas demain, mais après-demain. « Attendez, je vais voir, parce que je prends rendez-vous, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour une amie, très chère. » Elle demande à Jeanne, « Après-demain, 16h. » Jeanne lui dit,
« Oui, ça va. »
Mademoiselle Ramon dit au téléphone, « Oui, c'est bon. »« Oui, nous y serons alors. Merci. » Elle raccroche. Elle dit à Jeanne, « Eh bien, voilà. » Et après-demain, Jeanne est amenée par Mademoiselle Ramon en taxi chez la voyante. Jeanne est habillée avec un tailleur noir. Dans le taxi, elle dit à Mademoiselle Ramon,
vous ne direz pas qui je suis. Je veux voir si elle est capable de savoir qui je suis. Je suis très curieuse et c'est la première fois que je vais voir ce genre de personne. Ça me fait tout drôle, moi qui ne crois à rien. Je ne veux pas croire à ces foutaises. Et vous, mon ami?
Mademoiselle Ramon lui dit, vous changerez d'avis lorsque vous la verrez. Le taxi roule dans les rues de Paris. Il se dirige au Marais. Et là, une rue
fait d'hôtel particulier, vieux, sombre. La rue n'est pas très large. La voiture va s'arrêter devant cet hôtel. L'immeuble a 3 étages. Il faut du cour pavé, sombre, délabré, mais de belles moulures. En descendant de voiture, Jean dit à Mademoiselle Ramon :
Mais c'est lugubre !
Elle lui dit : Oui, la façade a besoin d'être rafraîchie, comme l'intérieur, mais ça coûte cher.
Jean lui dit : Oui, bien sûr. Elle ne doit pas beaucoup gagner.
Mademoiselle Ramon lui dit : Elle gagne beaucoup. On la paye à un prix d'or. Mais malheureusement, la voyante a une fille avec qui elle vit. Et cette fille est, disons, très avare, mais d'un avarisme maladif. C'est elle qui tient la bourse de sa mère. Elle force à sa mère à vivre d'une façon simple. Mademoiselle Ramon l'amène à un petit portail en fer peint noir. Elle appuie sur une sonnette. Elles attendent un peu. Le portail s'est ouvert et apparaît une jeune femme dans les 30 ans, grande, mince, forte, cheveux en chignon châtain. Elle a un côté pataude, pas maquillée, une robe toute simple, marine. Jean voit qu'elle porte à sa ceinture des clés. Mademoiselle Ramon dit à la femme :
Je suis Mademoiselle Ramon, j'ai téléphoné pour un rendez-vous à 16h. Avec Mademoiselle Jean Borch.
La femme les regarde bien et leur dit :
Entrez.
Et elles entrent. Elle a fermé la porte derrière elle.
Suivez-moi.
Elles la suivent. Elles longent la petite cour pavée pour aller à la maison qui a un perron avec des marches. Mademoiselle Ramon dit à Jean :
C'est la fille de Madame Zéphir.
Et elle les fait entrer dans la maison.
C'est très sombre et sale. La tapisserie n'a plus de couleur, tellement qu'elle est vieille et noircie. C'est un petit couloir avec des portes. Elle ouvre une porte à gauche et dit :
Entrez et attendez, elle va venir vous chercher.
C'est un petit salon, Jean Campagnard. Ça sent la poussière et c'est très sale. Et très sombre. Les deux femmes vont s'asseoir sur des chaises empaillées. La fille les laisse.
Jean dit :
Vous faites venir dans un drôle d'endroit.
Mlle Ramon lui dit :
Ça donne du piquant à l'aventure. Il y a sur la table basse des vieux matchs sans âge, comme chez le médecin.
La porte d'en face de celle qui est auquel elles sont rentrées s'ouvre. et apparaît une femme dans les 60 ans, grande, mince, cheveux gris, visage osseux, non maquillé. Elle porte une robe noire toute simple. Ses mains sont très maigres. Elle a une canne. De son visage, il n'y a que ses yeux qui sont vivants. Elle va vers elle. Les deux femmes se lèvent et leur dit
« Je suis Mademoiselle Zéphyr. Vous avez demandé à me voir, me voici. »
Mademoiselle Ramon lui dit « Madame, vous avez été tellement merveilleuse avec moi, vous m'avez dit tant de choses sur mon passé, sans me connaître. Je me suis permis, c'est de vous présenter à une de mes amies, qui est curieuse de voir vos facultés. » La voyante regarde bien John et lui dit
« Vous êtes bien bonne, ma fille, mais la fortune de votre famille grandira en même temps que leur crime. »
John pâlit. La voyante lui dit
« Mais vous, vous êtes en dehors de tout ça. Vous êtes la bonté même. Croyez-vous en Dieu ?»
Jean lui dit.
« Oui. »
La voyante lui dit.
« Vous ne croyez pas en Dieu. Désormais, il faudra croire en Dieu. »
Jean, troublé par tout ça, tout ce qu'elle entend, ses yeux qui la regardent fixement, lui dit
« Je croirai en Dieu. »
La voyante lui dit
« Venez, nous allons dans mon cabinet. »
Et les femmes la suivent. Elle ouvre une porte, la porte par où elle est entrée. Une fois qu'elles sont rentrées, trois femmes se trouvent dans un petit studio où il y a un coin sol chambre à coucher avec un lit à une place et une armoire. Un coin salon avec une table ronde près de la fenêtre. Sur cette table, il y a un jeu de cartes, une loupe et un bracelet à gros grains noirs.
Assoyez-vous.
Elle fait asseoir les deux femmes à table sur des chaises. Et elle va s'asseoir en face d'elle dans un fauteuil. Elle dit à Jeanne,
« Votre main. »
Jeanne la lui tend. La voyante prend la loupe et regarde. Puis regarde la personne et dit,
« Je vois des choses très intéressantes. » Mais je ne peux vous les dire maintenant. Il faudra que nous nous connaissions mieux. Plus tard, j'ai peur que ça vous fâche. »
Jean lui demande, « Est-ce grave ?» Elle lui répond,
« Oui, mais pas pour vous. Vous, vous êtes un ange. » Vous êtes un ange qui allait tout sauver. »
Jean lui dit,
« Je vous en prie, dites-moi ce que vous voyez. » Je vois quelque chose d'horrible, d'horrible et de terrible, mais je ne peux vous le dire aujourd'hui. C'est trop tôt. Je vous ferai trop de mal. »
Jeanne panique. Elle se demande quelle horreur va lui arriver.
Thank you.
nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.